recette.
Swing Time sur Swing FM, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier et Claude-Alain Christophe. Messieurs, bonjour.
Bonjour, Martine.
Bonjour, madame.
Content de
bonjour,
vous
Martine.
Voir.
Bonjour, Claude-Alain. Et bonjour aux auditeurs aussi.
Bonjour, bonjour à toutes à et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Alain, c'est toi qui démarre. Et qu'est-ce que tu nous as préparé?
Ah bon, on va faire une petite leçon d'histoire parce que je m'entraîne encore, bien qu'à la retraite. Et oui, comme et puis... on est autour du 11 novembre, on va parler du 11 novembre.
D'accord. Ah,
et je vais essayer de présenter une émission que j'ai intitulée « De Harlem à la Marne ». Quand j'ai dit la Marne, c'est un peu faux, c'est le front en fait de 1917-1918. Et en sous-titre, c'est le jazz issu des tranchées. Alors c'est le jazz balbutiant, le pré-jazz. Bon, mais c'est déjà de la musique syncopée qui va annoncer du jazz.
Ouais.
On va commencer un peu en fanfare, si j'ose dire, fanfare militaire. Et on va finir par du vrai jazz.
On va
mais du jazz patriotique à la fin.
Ah.
Je laisse la surprise à la fin. Voilà.
On sera au garde à vous.
Voilà. Eh bien, effectivement, je pense qu'on peut avoir une pensée pour nos aïeux, pour tous les poilus partis si jeunes vers l'enfer des tranchées. Et en 2017, nous célébrons aussi l'arrivée des Américains à nos côtés. Et parmi ces samis se trouvaient des Noirs de Harlem, notamment des Noirs de Harlem et d'ailleurs. Et les Noirs de Harlem, il y avait un régiment que les Allemands ont appelé très vite les Hellfighters, les tireurs de l'enfer, tant leur vaillance et leur courage au combat étaient impressionnants. Et comme dans tout régiment, il faut une fanfare pour marcher au pas, il faut aussi un peu de musique pour détendre les soldats et les officiers au repos. Et bien un Américain blanc idéaliste, qui était un avocat de son métier, qui est le colonel Hayward, et bien il a eu l'idée de créer un régiment noir qu'il dirigeait, et dans ce régiment, il voulait un orchestre rythmique de jazz, si on peut dire, on n'est pas encore dans le jazz, mais de la musique de noir américain au sein de l'armée US. Voilà. Et il emmène ce régiment en Europe, donc qui est arrivé par Brest et qui est allé sur le front. Et cet orchestre est assez connu, au moins historiquement, mais même parmi les amateurs de jazz, même si on est dans le pré-jazz, c'est James Reese Europe. Donc, ce musicien américain s'appelait Europe, si on l'enlève. Voilà.
C'était prédestiné.
C'était tout à fait prédestiné. Alors, on verra que c'est une mi-fanfare, mi-orchestre de musique syncopée. Hein, ce n'est pas encore vraiment du jazz. On va donc s'attacher aujourd'hui à découvrir, voire à redécouvrir, des musiciens du jazz naissant qui ont porté l'uniforme. L'uniforme US. On verra que des fois, c'était l'uniforme un peu français, je dirais pourquoi. Alors, soit qu'ils étaient musiciens, soit qu'ils étaient soldats combattants. Donc, ils ne viennent pas tous de Harlem, les musiciens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas tous noirs, sauf que sur 11, il y en a 10 qui sont noirs, il y en a un qui est blanc. Donc, c'est même essentiellement des noirs américains, mais c'est leur musique qu'on présente. Et ils n'ont pas tous été dans le fameux régiment des Hellfighters. Mais c'est ça qui m'a donné l'idée de l'émission. Donc, je voudrais qu'on commence par l'orchestre de James ou de Jim Reese Europe, qui était lieutenant de l'armée américaine, musicien déjà très connu avant-hier. En fait, c'est un musicien qui est rentré dans l'armée, qui a réussi à négocier assez vite le titre de lieutenant, comme il dirigeait une fanfare. Mais il était noir, hein, je dis bien.
Je crois que c'était le seul officier noir, d'ailleurs, de l'armée américaine.
Oui, voilà. Alors, il y en a eu après, mais j'évoquerai un peu les rapports entre les soldats noirs, officiers ou non, et les soldats blancs. Bon, on verra que c'est... Bon, que Jim Crow avait traversé l'Atlantique aussi et que le racisme était très, 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 très fort dans l'armée. Je signale même que un des héros de cette époque qui a paradé à New York après la guerre n'a pas été reconnu, n'a pas eu les médailles qui auraient correspondu à son engagement combattant et que cette médaille a été donnée par un président américain, mais le président américain s'appelait Barack Obama, donc c'est assez récent. Donc la reconnaissance n'était pas totale, hélas. Mais c'est Jim Crow, hein, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Alors on va se rendre compte dans ce premier morceau qu'on n'est pas encore dans le vrai jazz, swing et hot. Et les musiciens vont interpréter un morceau classique basé sur un prélude en do majeur de Rachmaninov qui s'appelle Russian Rag. Mais si on se souvient du concert assez récent de Sébastien Tronelet, il nous a bien expliqué que dans le ragtime, il y avait des morceaux classiques. Donc tout ça est bien logique. Et quand il est venu à Limoges, Sébastien, on voit qu'il a bien travaillé son propos, son histoire de jazz. Donc on le félicite pour ça et aussi pour sa musique. C'était un petit aparté en plus. On écoute donc Rich and Rye qui a été enregistré à New York le 7 mars 1919. La fin vaut son pesant de rigolade.
C'est drôle,
là.
C'est drôle.
Alain,
c'est drôle.
Voilà. Toi qui connais tout en matière de jazz, tu sais que 40 ans après, l'orchestre de Wilbur de Paris a repris ce prélude de Rachmaninoff et l'a joué avec beaucoup plus de swing.
Oui, oui. Non, on est effectivement dans les prémices du jazz, on va dire. Voilà, effectivement. Mais ce n'est pas du jazz. Et les musiciens, en fait, c'est une fanfare militaire. Ouais. Les musiciens sont tous c'est des Noirs ou des Portoricains. Et James Reese Europe, il préférait même les musiciens portoricains, très bizarrement. Donc, on est tout de même éloigné de notre musique. Mais à l'époque, c'est ce qui passait pour la musique noire, à la mode.
Oui, enfin, déjà, ça devait, la façon dont il l'interprétait devait être étonnante pour les Blancs, les Européens qui découvraient ça. Quoi.
Tout à fait. Quand ils ont débarqué à Brest, ils ont joué la Marseillaise de cette façon-là. Et donc, mais ça avait plu beaucoup, apparemment, aux gens qui ont écouté la Marseillaise par cet orchestre. Mais c'est très particulier. Ça permettait d'illustrer mon propos liminaire, mais évidemment, ça permet aussi de rigoler un petit peu. Alors, je vais rester avec un autre musicien du premier jazz, voire du pré-jazz, qui est Noble Sissle, qui est un peu plus connu. Oui. Surtout, d'ailleurs, parce qu'il a travaillé avec James Reese Europe, mais il a travaillé aussi pour son compte, son propre compte, avec Chubby Black, etc. Il est venu en France assez souvent, et pas seulement en 17, donc il est venu en France dans les années 20, assez souvent, et 30. Et le morceau qu'on va entendre, qui est tout aussi corny, tout aussi démodé, rigolo, enfin décalé, on n'est toujours pas dans le jazz, mais il cadre très bien dans... avec le titre, avec mon propos, hein, avec le titre de cette émission, puisque ça s'intitule, et ça a été composé en France, bien sûr, en 1917, In a café, café, il y a l'accent aigu, in a café on the road to Calais. C'était les musiciens qui, de temps en temps, quand ils se repliaient un tout petit peu sur la deuxième ou troisième ligne, qu'ils allaient au repos, bah, il y a un café du côté de Calais qui les a inspirés. Donc c'est un disque enregistré à New York le 24 février 1931, donc on est longtemps après la guerre, par Noble Sissol.
When you danced for me in a cafe on the road to Calais. Cherie, were you just fooling me when you said wee wee in a cafe on the road to Calais? You promised me that you'd be true the day we said adieu. Was I the only one you gave your precious kisses to? Cherie, will I return to find just a memory in a cafe on the road to Calais?
A supporté un vocal un peu empoulé du chef de Noble Sissol, mais malgré tout, je me suis rattrapé. On a eu droit à un superbe solo de trompette de Tommy Lanier et même 8 mesures de Sidney Bechet au soprano. Donc on voit que le jazz sort un petit peu de sa gangue tout de même. C'est autre chose. Voilà.
C'est déjà un début de jazz.
C'est déjà mieux. Alors on va revenir en arrière tout de même. Je vais revenir à Jim Europe, hein, donc le premier. Mais on va être en 1914, donc les tout premiers enregistrements, les prémices de l'enregistrement de disques, hein, ce n'est pas encore les disques d'aujourd'hui. Jim Europe avait dans sa formation un batteur nommé Buddy Gilmore, qu'il a emmené avec lui en 1917 en France. En fait, il a choisi son batteur pour l'emmener au front tout de même. Et le titre suivant permet d'entendre ce fameux Buddy Gilmore, donc au sein de l'orchestre Jim Europe, dans un titre qui s'intitule « Castle House Rag ». Le rag, toujours, hein, le début du jazz, mais on verra qu'on est assez loin du jazz. Enregistrement fait à New York le 10 février 1914. Je suis dans un cours d'histoire, là.
Thank you.
Alors, ce Castle House, c'était pas une maison ressemblant à un château, mais la demeure de danseurs célèbres à l'époque, Vernon and Hiram Castle.
C'est rigolo parce que le petit solo de batterie qui est à la fin, ça rappelle tout à fait Bojangles en train de danser avec ses souliers, ses semelles en bois, là. C'est tout à fait
oui,
ça.
Oui, hein. Oui, oui. Et ça a dû inspirer peut-être un compositeur français qui a fait une chanson pour Maurice Chevalier.
Oui, on croirait que c'est fait pour accompagner Maurice.
Bon, voilà.
Alors... Mais il faut bien dire quand même que. Il faut quand même. Parce que si des gens ont pris des missions en route, ils se sont dit mais c'est pas, on n'est pas sur Swing FM, là, c'est pas possible.
Oui, oui.
Il faut quand même préciser qu'il ne suffit pas de faire de la musique syncopée pour swinger.
Pour faire du jazz et faire du swing.
Contrairement à ce que pensent encore certains aujourd'hui.
Voilà, voilà. Et pourtant, on avait un batteur noir qui sera célèbre parce qu'il est revenu en France dans les années 20. Il a joué au théâtre des Champs-Élysées, donc il était célèbre. Alors, je vais rester avec un batteur, mais le seul musicien blanc qu'on va entendre aujourd'hui, qui est Vic Berton, qui aussi est arrivé en France en 1917. Alors, il a eu un certain succès à l'époque. Il a même monté des orchestres sous son nom. Il a joué avec Red Nichols et Paul Whiteman. Donc, on voit qu'on est toujours assez loin du jazz tout de même, mais dans cette musique syncopée, dans cet esprit de l'époque. Mais il correspond aussi à mon propos. C'est un ancien combattant qui fait de la musique vaguement jazz, très, très vaguement d'ailleurs. Et le titre s'intitule « A Smile Will Go a Long, Long Way » et c'est enregistré le 1er février 1935. Précision historique, je vais donner les solistes tout de même parce qu'ils ne sont pas très connus. Bon, ils ne sont pas non plus impérissables. Hein. C'était Stalling Bowes à la trompette, Matty Matlock, légèrement plus connu à la clarinette, et Artie Foster au trombone. Et je vais tout de même monter un peu le niveau parce que là, je suis menacé de licenciement immédiat. On réclame du jazz à corps et à cri dans ce studio. Donc, le niveau va monter avec un fameux batteur. qui est aussi un ancien combattant, puisque c'est mon propos du jour. Il s'agit de Tubby Hall, qui joue ici au sein d'une formation dirigée par Jimmy Noon. Et il y a de bons solistes, c'est-à-dire Preston Jackson au trombone, Guy Kelly aux trompettes, Frances Whiteby au ténor, et il joue un morceau très connu, Sweet Georgia Blonde. C'est un disque enregistré à Chicago le 15 janvier 1936. Il y a Jimmy Noon à la clarinette tout de même.
Jimmy Noon, c'est quelque chose.
Voilà.
Quand même, hein.
Et le batteur, c'est un vrai batteur de jazz, la Tubby Hall.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Hein, il soutient bien l'orchestre. Hein,
le grand frère de Minor Hall que nous avons accueilli à Limoges.
Voilà, Minor, mais pas Tubby, effectivement.
Mais, et alors, sais-tu qui est pianiste dans cette formation? Parce qu'il se contente de faire la pompe presque tout le temps, mais au tout début, on l'entend un petit peu, curieusement, on dirait qu'il a écouté Erlines, ce type.
Alors, le pianiste, je ne me souviens plus, mais si Martine me donne la pochette, on va trouver le pianiste sans aucun problème. Eh bien, le pianiste s'appelle, si je le prononce à la française, Gideon Honoré.
Jamais entendu parler.
Et tu as dû l'entendre parce que c'est des disques que tu as dû entendre.
Et là, c'est curieux parce que Erlines a joué avec Jimmy Noon quelques années plus tard.
Oui, effectivement.
Plutôt, tu crois? Ah ben donc, ce type avait dû entendre sans doute.
Il a joué en 1928, tu sais bien. Il a fait des disques en 1928.
Oui.
Et ça, c'est de quelle année ça?
Et ça, on est en 1936.
Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, c'était après.
Et là, on est en direct.
Et là, on est en direct aussi. Donc, on est en 2017 là. Voilà, c'est un enregistrement de 2017 qui commente un enregistrement de 1936. Eh ben, on va rester dans les enregistrements du passé, dans le vrai et bon jazz. Et on va chercher un très bon contrebassiste, celui qui a longtemps accompagné Jerry Roll Morton, puisqu'il s'agit de John Lindsay, lui aussi ancien combattant. Alors là aussi, j'ai pas un morceau avec un solo de John Lidsey. J'ai essayé d'en trouver un morceau où John Lidsey soutient bien l'orchestre, où sa contrebasse, on l'entend bien. Et j'ai choisi un titre de enregistré à Chicago en décembre 1926 et qui s'appelle « Someday, Sweetheart ». Chacun aura bien sûr remarqué le solo de clarinette basse d'Homer Simon. Il a pris le premier solo de clarinette, mais c'est lui qui joue de la clarinette basse. Il y avait un petit crin-crin de violon moins terrible. Et il y avait un excellent trompettiste qui est l'idole d'ailleurs des trompettistes néo-orléanais pour Dominique Gouguet. C'est un scoop. Et ce trompettiste s'appelle George Mitchell, mais très bon trompettiste, effectivement, méconnu, sous-estimé. Alors maintenant, on va aller du côté d'un autre trompettiste, plutôt un cornettiste, nettement plus connu, pas sous-estimé, puisqu'il s'agit du roi, c'est King Oliver lui-même. Et on va regarder dans son orchestre, s'il n'y aurait pas quelques témoins de la Grande Guerre. Alors, il y a Louis Armstrong qui est avec Papa Joe, mais lui, il n'est pas venu en France en 1917. Par contre, il y a un tromboniste de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Honoré Dutray, qui jouait du trombone et qui a fait la guerre en 17 et 18, puisque les Américains ont fait 2 années de guerre. Et on va entendre Honoré Dutray. Alors, il faut bien entendre l'oreille, parce qu'il n'est pas en soliste là-dedans. Et puis, il est derrière King Oliver et Louis Armstrong, donc il faut qu'il fasse sa place. Il a un trombone, heureusement. Il va jouer avec l'orchestre de King Oliver dans le premier titre dans lequel on entend Louis Armstrong, premier titre enregistré, qui s'intitule « Just Gone » et c'est enregistré à Richmond le 5 avril 1923. Rester.
Ouais, c'est vrai. Je disais, c'est vraiment les rois de l'improvisation collective.
Voilà.
Ça, alors, malheureusement, si mal enregistré, c'est dommage. Ouais. Enfin, ça, c'est, il faut dire que 1923, c'était encore l'enregistrement acoustique.
Voilà, c'était encore acoustique, donc c'était pas encore génial, mais on entend bien la musique polyphonique. En tendant bien l'oreille, on entendait les glissandos du trombone. Il fallait tendre l'oreille. Ouais. On va continuer à tendre l'oreille parce qu'on va rester avec King Oliver et Louis Armstrong. On va trouver un autre trombone qui est aussi un poilu, non pas de Harlem, mais de Chicago. Et on va percevoir le contre-champ de son trombone derrière les deux cornets. Il s'agit d'Ed Atkins qui intervient dans Chattanooga Stomp, enregistré à Chicago le 15 octobre 1923. C'est donc la même année.
Thank you.
T'as aimé la rythmique, Claude Allain ?
Ça. Oui, c'est bien. Hein, voilà. C'est bien. Bon. C'est vraiment un bon orchestre.
Voilà. Hein. Oui, c'était John Saint-Cyr au banjo et Baby Lotz à la batterie. Et j'étais en forme.
Les petits breaks de Saint-Cyr, formidable.
Hein, au banjo, c'est excellent. Alors, on va rester avec un...
Mais tu leur as demandé de leur livret militaire à tous ces gens-là ?
Non, j'ai pas vérifié. Voilà, ils sont réputés avoir fait la guerre. Voilà, ils sont réputés avoir fait la guerre.
Ils l'ont certainement fait.
Donc je suppose, oui, on les a emmenés. Ils sont revenus, heureusement, tous sont parvenus. Alors on va avoir un autre, non pas un musicien, mais quelqu'un qui a à voir avec le jazz, puisque c'est le roi des woofers, un danseur de claquettes. C'est tout simplement Bill Bojangles Robinson, qui lui aussi a revêtu l'uniforme. Et on va l'entendre chanter et danser... tapé sur le sol, en compagnie d'un orchestre blanc qui est celui d'Irving Mills, dans une composition très connue de Fats Waller, c'est Ain't Misbehaving, et c'est enregistré à New York le 4 septembre 1929. Et tu faisais remarquer qu'on dirait un peu les musiciens d'Ellington. Ils sont blancs, tout cela.
Oui, ouais. Le trompette, je trouvais qu'il ressemblait un peu à Freddie Jenkins.
Voilà, qui n'était pas mauvais. On se croirait au Cotton Club à l'époque, hein, tout simplement. Mais Bojangles tire tout le monde, là. Donc c'est un morceau, il me semble-t-il, intéressant. Alors on va rester...
Oui, parce que c'est un bon chanteur, en plus d'être un danseur extraordinaire.
Il danse bien, il chante bien et il est un bon acteur aussi. Oui, donc voilà, c'est un artiste complet. Et on va rester dans les légendes du jazz, puisqu'on va trouver un pianiste de New York à la carrière fort longue. Il est mort à 100 ans, celui-ci. Il a fait la guerre de 14-18 et il s'appelle Hubby Blake. Et on va pouvoir l'écouter dans des enregistrements. Alors, récents, j'aurais pu prendre les enregistrements de 1917, mais c'est des piano rolls, c'est des pianos mécaniques, donc c'est un peu mécanique, la musique. Donc, j'ai préféré prendre un morceau enregistré en mai 1973. Donc, il n'était pas jeune, il avait 90 ans à l'époque, il est mort en 83. Et c'est un de ses grands morceaux, c'est son morceau de bravoure, un de ses grands succès, c'est Memories of You, donc Hubby Blake. C'était beau, ça.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, je maintiens que notre ancien combattant, qui a commencé à enregistrer mais des piano-rolls, du piano mécanique en fait, en 1917, a continué. Et là, on était en 1973. Et il jouait encore très bien.
Et oui, oui.
Voilà. Dans son, sa composition peut-être la plus célèbre. Hein, en tout cas, très, très, très célèbre. Il me semble qu'il y a un musicien qui a failli être oublié, mais pas du tout, parce qu'il est gardé pour la fin. Parce qu'on ne va pas oublier le dernier titre et le dernier musicien. C'est sans doute le plus jovial, le plus connu, le plus francophile des pianistes de Ragtime et de Stride.
Oui.
Et donc, il s'agit forcément de Willie the Lion Smith. Peut-être le lion, on dit, pour son, soit pour son ardeur dans les tranchées, soit parce qu'il rugissait en jouant. Voilà.
Oui, on n'a jamais su.
On n'a jamais su, et comme
tu
il ne l'a jamais dit.
Il disait d'ailleurs, il disait, tout ce qu'on dit du lion est vrai.
Voilà, donc voilà. On a une réponse historique, une parole historique, par un témoin auditif du lion, de Willie Smith, le lion. Donc on le gardait forcément pour la fin, puisqu'on commémore le 11 novembre, à quelques jours près. Alors, on a entendu 11 morceaux, forcément, hein, pour le symbole. Et le 11e morceau, ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'écouter notre fameux lion jouer et rugir la fameuse Madelon, enregistrée à New York en juin 1972 tout de même.
Thank you.
Voilà, ça résume tout.
Oui. Hein? Alors, pour la petite histoire, tu sais que la première fois que Willie Smith le Lion est venu à Limoges en 1950, le maire de Limoges à l'époque était un ancien combattant de la guerre de 14, oui. C'était Léon Betoul.
C'était Betoul.
Mmh. Il a donc reçu le Lion, et le Lion l'avait surnommé le shérif.
Voilà. On a un shérif à Limoges, voilà. On a eu plusieurs shérifs ensuite. Il faudra le dire au maire actuel, c'est un shérif, il va être content. Eh bien, effectivement, on avait une marche militaire, on a fini en swing. Alors, la marche militaire, elle avait déjà une syncope assez bien emmenée.
Enfin, d'ailleurs, Joe Jones, qui l'accompagne, jouait vraiment pas le tambour de ville, mais le tambour de fanfare.
De fanfare, voilà. Et justement, alors, le fameux Joe Jones, on l'appelait le tigre à l'époque dans le titre du disque. Alors, le tigre, ce n'est pas Georges Clemenceau, là, cette fois-ci, c'est bien Joe Jones, mais peut-être qu'il aurait fait un tambour major ou un tambour de la garde républicaine, on ne sait pas. En tout cas, c'était un très bon batteur. Il aurait été un bon batteur dans une musique militaire, il est encore meilleur en jazz. Eh bien, c'en est fini notre hommage aux musiciens de jazz américains, qui étaient essentiellement des Noirs. Alors, de jazz ou de pré-jazz, hein, on avait un petit peu de tout au départ. J'ai voulu montrer une petite fresque historique. Et puis, il a fallu que je trouve les musiciens qui avaient fait 14-18 ou 17-18.
D'ailleurs, Martine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il me semble qu'on connaissait déjà Alain Charbonnier, professeur d'histoire du jazz. Et maintenant, on connaît Alain Charbonnier, qui est vraiment un, comment dirais-je, préhistorien du jazz. Voilà.
Sans doute, c'est ça. Compliment. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que ces fameux Noirs américains, je parle des Noirs, je ne parle pas de Vic Burton, mais tous les autres, quand ils sont rentrés sur le front, quand ils sont arrivés en France et qu'on les a envoyés sur le front, d'abord, les officiers blancs, l'armée blanche, l'armée du général Pershing, d'ailleurs, ne voulaient pas trop les mettre au front parce qu'on se méfiait, les Noirs, on ne voulait pas leur mettre un fusil entre les mains.
Oui,
donc,
parfait.
Ils ont combattu dans des unités françaises, enfin, à côté des unités françaises, sous le commandement du général Gouraud. Ils avaient le cascadrillon sur la tête et ils avaient un fusil Lebel entre les mains. En fait. Et effectivement, on ne pouvait pas mélanger les niggers et les yankees. Et surtout, on se demandait comment est-ce qu'on aurait pu faire s'il y avait un sous-officier ou un officier, il y en a eu quelques-uns après, noir. Il ne pouvait pas donner un ordre à un deuxième classe blanc. Voilà. Alors, c'était ça l'histoire.
C'est pour ça qu'il n'y avait pas du tout d'officier. En 14, il n'y avait pas du tout d'officier dans l'armée, noir dans l'armée américaine.
Voilà. Après, ils sont arrivés, c'est pendant la guerre où ils ont obtenu quelques grades. Jimmy Europe, il avait négocié comme un contrat. Voilà, il avait négocié le titre de lieutenant. Alors, pour aller plus loin en matière historique, puisque j'ai fait mon petit cours d'histoire ou de préhistoire du jazz, je signale la parution d'un livre qui s'intitule « Les poilus de Harlem ». Ça a été écrit par Thomas Saint-Ourin. C'est édité par Talendier en 2017. Ça m'a inspiré cette émission. C'est comme ça que j'en ai eu l'idée. Mais évidemment, les disques sortent de ma discothèque. C'est pas un livre de jazz, hein, ces fameux poilus de Harlem, parce qu'on explique que Jimmy Europe, c'était un grand artiste de jazz à l'époque et que les meilleurs musiciens de jazz étaient portoricains. Donc sur le jazz, c'est pas très bon. Sur le reste, c'est un bouquin intéressant à lire et c'est pas très long. J'en ai fini avec mon cours du jour.
Merci Alain, c'est un régal.
De rien, merci beaucoup.
La parole, l'émission, parce qu'on va se poursuivre avec Claude Alain Christophe.
Alain a commencé en 1917 ou à peu près. Eh ben,
même en 14.
Même en 14.
C'est le cas de le dire.
On va se retrouver cette fois en 2017, puisque j'ai sous la main un nouvel album de Michel Pastre, un de mes musiciens de jazz actuels préférés. Et Michel Pastre, une nouvelle fois, a fait vraiment un bel album avec un quintet qui est composé de lui-même, bien sûr, au saxo-ténor, de Malo Mazurier à la trompette, et puis de ce trio qu'on appelle maintenant la section rythmique, qui est composé donc de Guillaume Nour à la batterie, de David Blenkhorn à la guitare et de Sébastien Girardeau à la contrebasse.
Ça va être bon.
Et ça, vraiment, c'est une belle rythmique. Et ils ont tellement l'habitude maintenant de jouer ensemble que vraiment, ils méritent ce titre de rythmique, la rythmique. On les appelle comme ça. Donc voilà, ce quintet a fait vraiment un beau CD. Alors, il n'y a pas du tout la photo de Michel Pastre dessus. Il y a curieusement un dessin de Lionel Hampton. Enfin, on peut être surpris au début, mais quand on regarde la liste des titres, on s'aperçoit que c'est le répertoire de Lionel Hampton et particulièrement le répertoire des enregistrements historiques qu'il avait fait avec des petites formations entre 1937 et 1941. Et donc, à ce quintet, pour quelques plages, s'ajoute le formidable Danny De Ryse au vibraphone, qui est vraiment épatant dans ce CD. Et puis un autre musicien, un Américain, qui joue de la clarinette, qui s'appelle Ken Peplowski, que personnellement, j'apprécie que moyennement, parce qu'il est vraiment trop proche de Benny Goodman, qui n'est pas ma tasse de thé, comme chacun sait. Mais enfin, bon, il joue quand même sa partition. Bien, alors on va d'abord écouter quelques plages avec simplement le quintet. Et donc, on va commencer par Hampton Stomp, qui met en valeur Guillaume Nouhau à la batterie, parce qu'il faut se rappeler quand même que Lionel Hampton est surtout connu comme vibraphoniste, mais que c'est un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz aussi. Et donc, Guillaume Nouhau est en valeur. On entend aussi en solo Malo Majurier, Michel Pastre, Sébastien Girardot et Guillaume Nouhau, bien sûr. Belle interprétation, je
ça,
crois.
C'est bon, ouais, ouais.
J'entendais d'ailleurs Dominique Gouguet, qui aujourd'hui officie à la technique, et qui s'exclamait derrière le solo de batterie. Hein. C'est vraiment épatant, parce qu'il a vraiment pigé l'esprit de Lionel.
Hein.
C'est vraiment très, très chouette. Alors, tu vas encore te régaler, Dominique, parce que maintenant, on va écouter Jack de Bellboy. Évidemment, ça n'a... quand même pas, ça n'atteint pas le niveau de celui de Lionel Hampton, parce que c'est exceptionnel. C'est un des plus extraordinaires enregistrements de batterie en jazz, je trouve, Jack
tout
de Bellboy.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Alors, Lionel était accompagné dans ce Jack de Bellboy de 1937 par le trio de Nat King Cole. Tandis que là, évidemment, c'est une formation bien différente. Mais on entend, bien sûr, souffler... Malo Majurier et Michel Pastre.
Qui est un très bon trompettiste, Malo Majurier.
Oui,
très bon.
Oui, disons qu'il a les défauts de sa jeunesse, c'est-à-dire que sur des tempos rapides, des fois, il s'emballe un peu.
Voilà.
Et ce n'est pas toujours bien, bien, bien construit. Dans le premier solo, d'ailleurs, qu'on vient d'entendre là, il commence difficilement et puis il se remet sur ses pieds après. Mais c'est un trompette qui promet beaucoup, mais ouais. Il est encore jeune, il a les défauts de sa jeunesse, il déboule à toute allure, et des fois, bon, c'est un peu limite, quoi. Par contre, Pastre domine son instrument de façon extraordinaire. Et alors là, dans ce Jack the Bellboy, ce qu'on va aussi apprécier, c'est sur un tempo d'enfer, on remarquera la souplesse insufflée par Sébastien Girardot. Non, surtout, oui. Alors, lui est en vedette, il est en solo, Guillaume
oui.
Mais Sébastien Girardot et David Blankhorn donnent une pulsation à l'interprétation qui est extraordinaire. D'ailleurs, le solo qu'on vient d'entendre déjà de Sébastien Girardot est excellent dans le morceau précédent. Donc voici Jack the Bellboy, enregistré donc en 2017 par ce quintet de Michel Pastre. C'est quand même de la belle musique. Hein.
C'est bien. Et tu vois, si on met un petit peu de son, hein, forcer un peu le son pour voir le rôle du contrebassiste hein, qui soutient bien tout l'orchestre. Parce qu'on pense toujours au batteur. Et si on écoute, on se concentre sur le contrebassiste, on voit
absolument.
Comment ça assoit la totalité
tout à fait.
De l'interprétation.
Tout à fait. Tu as parfaitement pigé l'importance de cette partie de basse. Et alors, vous avez remarqué, enfin, tous les vieux amateurs de jazz ont remarqué qu'ils reprenaient, en fait, les arrangements de l'époque, même si dans Jack the Bellboy, c'est une formation très différente, évidemment, de celle de Lionel. On reprend quand même, on retrouve les arrangements de l'époque.
Et même les jeunes amateurs comme Dominique et moi, on retrouve ces vieux arrangements. C'était une précision que je donnais comme ça.
Bon, et alors maintenant, on va écouter toujours par le quintet. Un morceau, évidemment, qui, quand, dans un hommage à Lionel Hampton, on ne peut pas se passer de jouer Flying Home. Donc, ils ont joué Flying Home, même si là, on n'est plus dans le répertoire des petites formations, mais plutôt dans le répertoire du grand orchestre de Lionel. Et alors, on entend d'abord Malo Mazurier à la trompette, et puis David Blankhorn aussi, qui joue un bon solo. Et Michel Pastre, évidemment, selon la grande tradition du jazz, reprend les deux fameux chorus de Illinois Jacquet dans la première version de Flying Home. Et ensuite, il improvise à sa façon. Et ces deux morceaux de Jacquet, ces deux chorus de Jacquet, qui reprend note pour note, il les interprète quand même à sa façon, avec son son à lui, et c'est vraiment épatant.
C'est ça le jazz.
C'est le jazz. C'est de la recréation, c'est voilà. Vraiment ça. Flying Home.
Thank you.
fameux. Hein, c'est chouette. Hein,
c'est fameux.
Vraiment, c'est un ténor merveilleux, ce Bastre. Bon, alors, on va maintenant écouter Don't Be That Way. Alors, dans cette interprétation, il y a toujours le quintet et il y a en plus Danny Doris.
Il fallait bien donc, les graphones.
Oui, oui. Alors, évidemment, on regrette un peu qu'il n'était pas là pour jouer Flying Home. Mais enfin, bon, ce Flying Home était quand même tellement beau que, bon, tant pis. Mais là, Danny Doris, vous allez l'entendre vraiment à son avantage. Mais il est toujours bon, hein. Mais ici, alors, il y a d'abord un chorus d'exposé, et puis ensuite, il y a un chorus par Michel Pastre, dont le pont est joué par Malo Mazurier. Ensuite, il y a un chorus par David Blankhorn, dont le pont est joué par Sébastien Girardot. Et puis, il y a ensuite un chorus entier par Danny Doris, qui joue remarquablement bien. Voici « Don't be that way ». Alors maintenant, on entre dans une évocation d'une autre époque de la carrière de Lionel Hampton, c'est quand il jouait avec Benny Goodman. Alors évidemment, il fallait un clarinettiste
qui joue pas comme Benny.
Qui joue dans le style de Benny Goodman, et c'est tout à fait ce que fait ici Ken Peplowski.
Oui.
Bon, alors moi je vous dirais que Benny Goodman, ça a jamais été ma tasse de thé, mais enfin, ceci dit, il joue bien dans l'esprit. Alors, on va donc écouter Shoeshiner's Drag, qui reprend l'arrangement de la version, comme d'ailleurs le Don't Be That Way qu'on vient d'entendre, qui reprend donc la version de Lionel Hampton de 1938, avec successivement en solo Michel Pastre, Malo Mazurier, David Blenkhorn, Ken Peplowski à la clarinette, et Danny Doris, qui termine. Et vous allez voir, même dans l'exposé, on entend Ken Peplowski. C'est un clarinettiste qui joue dans l'esprit Goodman. Bon, j'en dirai pas plus.
On va écouter.
Thank you.
classique, en fait.
Oui, bien sûr. Mais écoute, moi, il faut dire que je suis tellement... J'aime tellement les clarinettistes de la Nouvelle-Orléans que j'ai eu du mal à m'habituer à ce style de clarinette qui a un son beaucoup moins chaleureux que...
Non, mais c'est des gens qui ont appris au conservatoire et ils cherchent à traduire tous la même sonorité. Ouais. Donc, il y a le son Selmer, le son Buffet Crampon, c'est ça. C'est un son de musicien classique qui joue jazz.
Alors, on va encore entendre un son de musicien classique avec une composition de Benny Goodman qui s'appelle Six Appeal. À nouveau, Ken Pleplowski évoque bien Benny Goodman. Les autres solistes sont David Blankhorn et Danny Doris.
S'ils évoquent Charlie Christian et Lionel Hampton, c'est bon.
Ils sont d'abord. Il y a d'abord David Blankhorn et Danny Doris, qui sont tous excellents. À nouveau, puisqu'on l'a entendu déjà dans l'exposé, vous le verrez, on entend à nouveau. Alors, Ken Pleplowski qui me plaît un peu plus, là, parce qu'il joue beaucoup dans le grave et c'est quand même plus
agréable. Ça fait pas gazouillis, en fait.
Voilà. Et puis ensuite, viennent Michel Pastre, Mazurier et notre ami Sébastien Girardeau. Voilà, encore une belle interprétation. Six Appeal. Thank you. revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit que Malo Mazurier, dans sa jeunesse, se laissait des fois emporter par son tempérament, surtout sur les tempos rapides. Mais là, il a joué magnifiquement
il
dans ce morceau.
Il est excellent, ouais. Moi. Oui. Il est très, très prometteur, ce garçon.
Oui, je pense que quand ces petits défauts de jeunesse auront passé, ça sera un merveilleux trompette. Bon, ceci étant dit, nous terminons donc avec cette interprétation, la présentation de ce CD, qui est, semble-t-il, est une production de Michel Pastre lui-même, puisque ça s'appelle MPQ.
Michel Pastre Quintet,
tout simplement. MPQ 002. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres à venir, et peut-être qu'il y en a déjà eu un avant, mais moi, je ne connaissais pas.
Il a fait le Charlie Christian Project. Donc, il y a un peu dans le même esprit, tout même, c'est sur Charlie Christian.
Oui, c'était peut-être avec les mêmes musiciens, oui. Donc,
et puis, Michel Pastre, en ce moment, il est en train de vendre ses disques. Moi, j'ai reçu un petit mail récemment, donc il dit il faut aimer le jazz, il faut faire vivre les musiciens. Donc, c'est un disque à acheter.
Absolument.
Mais si on tape Michel Pastre, on va trouver son site sans aucun problème.
Absolument. Donc, achetez ce disque, voilà. Parce que vraiment, il vaut le coup. Donc, Michel Pastre, PQ 002, voilà.
Tout le monde va l'acheter, je te dis.
Je l'espère. Bon, eh bien, je crois que ce sera pour la semaine prochaine maintenant. Hein.
C'était Swing Time 2017. Les émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Mais c'est toujours du jazz.
Mais c'est toujours du jazz. Et on va même parfois au-delà, on revient.
Des fois, on va un peu avant le jazz, mais on y revient. Ouais, aujourd'hui, c'était le cas.
On finit par...
On était dans l'archéologie, c'est
tout
ça.
Tout à fait.
Du jazz. Puis on a fait du vrai jazz. Et à la fin, c'était aussi historique, ce jazz, parce que c'était Michel Pastre qui faisait une leçon d'histoire, mais à sa manière, à lui.
Absolument.
Pas à ma manière, évidemment. À sa manière.
Quelle belle manière,
n'est-ce pas?
Messieurs, vous nous avez fait passer un très bon moment, donc on se retrouve bientôt.
Bon, on espère, oui, si on est toujours en forme.